Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Amine Malouf. Bonjour Amine.
Bonjour Étienne.
Tu es secrétaire perpétuel de l'Académie française, mais avant tout, tu es un écrivain.
Oui, bien avant d'être élu à l'Académie, il faut commencer par l'écrire.
Voilà. Alors, l'écriture est un peu au centre de notre conversation d'aujourd'hui, et plus encore que l'écriture, j'aimerais que nous parlions de la lettre, du symbole de la lettre. Et la question principale que je voudrais te poser, on peut après décliner autour de ce thème, c'est est-ce qu'un écrivain comme toi, tu accordes une certaine importance à la police de caractère utilisée dans tes livres?
Oui, et je vais commencer par te révéler un secret. Quand je commence à écrire un texte, j'imagine que nous tous, nous écrivons aujourd'hui sur l'écran, que nous utilisons des traitements de texte. J'ouvre une page blanche et je mets la police de caractère que j'utilise parce que ce n'est pas celle qui est mise par défaut.
Alors, c'est laquelle ?
Aujourd'hui, j'utilise Garamond.
Ah, alors on est des frères parce que moi aussi, j'adore Garamond.
Et donc, la première chose que je fais avant même de prendre des notes ou de... J'installe Garamond dans la page et là, je commence à écrire. Quand j'écris un courrier, je n'ai pas Garamond dans le programme pour mon courrier électronique. J'ai un autre caractère qui, pour moi, est assez proche, qui est le Times. Donc, pour mon courrier, je mets tout de suite le Times avant même de savoir ce que je vais écrire. Donc, effectivement, la police de caractère est importante.
Garamond, dis-moi pourquoi tu aimes Garamond.
Pour des raisons purement esthétique. J'aime bien la forme des lettres, je me sens à l'aise en regardant un texte écrit comme cela, et probablement que j'ai déjà vu des textes de mes livres qui étaient en Garamond, et donc j'ai une familiarité avec cette police de caractère.
Alors c'est l'occasion de te poser une question. Est-ce que tu sais comment on écrit Garamond ?
Je sais qu'il y a un D à la fin.
Non.
Ah !
La police de caractère Garamond se termine par un D. Mais le monsieur Garamond, c'est avec un T.
Ah, c'est comme l'histoire de Toyota. Toyota, c'est un monsieur Toyoda qui a fondé la société, mais pour des raisons de sonorité ou d'autres, il a appelé sa compagnie Toyota avec un T. Donc il faut dire que ce sont deux lettres extrêmement proches.
Donc tu aimes bien Garamond ?
J'aime bien l'élégance des lettres. Ça me stimule, je pense que ça m'aide à écrire. Enfin, j'ai l'illusion que ça m'aide à écrire.
Qu'est-ce que tu penses des ligatures de Garamond ? Tu sais ce qu'est une ligature ?
Pas vraiment, je dois avouer. Dis-moi.
Dans l'alphabet, il arrive parfois que deux lettres consécutives, comme un double F, les deux F, ça serait pas joli si c'était deux fois F. En fait, il y a un caractère unique qui représente le double F, qui sont dessinés globalement pour qu'ils soient jolis. Et Garamond a cette particularité d'avoir des ligatures magnifiques. C'est très beau dans la Pléiade. Par exemple, ST, il est EST. Le S et le T sont connectés par une espèce de jolie courbe spécifique du Garamond. C'est un peu la signature.
Je ne l'avais jamais remarqué, mais maintenant que tu le dis, oui. Il faut que je le vérifie. Quand je rentrerai chez moi, je regarderai. Mais certainement, ça, inconsciemment, ça a dû m'influencer.
Parlons d'un autre alphabet, puisque tu me disais que ton premier alphabet, c'était l'arabe.
Oui, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et l'arabe, évidemment, il est écrit avec l'alphabet arabe. Comme l'alphabet latin, ils viennent tous les deux historiquement de l'alphabet phénicien. Il se fait que c'est un alphabet qui a été inventé à deux pas de là où je suis né. Donc j'ai un lien affectif avec cet alphabet qui est à l'origine de beaucoup, d'un très grand nombre d'alphabets à travers le monde. Mais les deux alphabets avec lesquels j'ai grandi et que je continue à utiliser sont extrêmement différents. L'alphabet latin, je ne vais pas en parler longuement puisque je suppose que toi et les auditeurs le connaissent bien. L'alphabet arabe, d'abord, s'écrit de droite à gauche. On écrit les consonnes et les voyelles longues, mais pas les voyelles courtes. Ce qui fait que si on ne comprend pas le mot, on ne peut pas le lire. C'est une chose qu'on n'observe pas toujours. Moi, par exemple, malheureusement, je ne comprends pas le russe, mais je connais l'alphabet russe. Je pourrais lire le russe sans comprendre. C'est évidemment vrai aussi du roumain ou d'autres langues. En arabe, on ne peut pas lire si on ne comprend pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont supposées connues et ça le rend plus compliqué que d'autres.
Est-ce qu'il n'y a pas un système de mettre des petits signes, des petites virgules ou des petits accents ou des choses de cette
nature ? C'est exact. Il y a des signes qui remplacent les voyelles courtes, sauf que ces signes, on ne les met pas d'habitude. On les met, par exemple, dans les livres pour apprendre la langue, dans les livres pour enfants ou même pour adultes qui apprennent la langue. Mais dans un texte imprimé normalement, on ne trouve pas ces signes. Donc les voyelles courtes, on doit les imaginer soi-même, on doit les connaître avant même de lire.
Donc ça entraîne un contact différent avec le texte.
Complètement, complètement. Aujourd'hui, il y a des points, il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup, sauf que pour certaines, on met un point, ou pour d'autres, deux points, pour d'autres, trois, et pour d'autres, aucun point. Et donc, c'est le nombre de points qui détermine ce qu'est cette consonne-là. Autrefois, on écrivait les mêmes textes et on ne mettait pas les points. Je n'imagine même pas comment ils pouvaient déchiffrer, alors que chaque consonne écrite pouvait être une de quatre ou cinq consonnes différentes, et chacune pouvait être dotée d'un accent, d'une voyelle différente. Mais je suppose que les gens parvenaient à lire, mais alors uniquement les lettrés.
Est-ce que tu penses que l'arabe est lu de la même manière par les gens du peuple et les lettrés ?
Il y a beaucoup, beaucoup de variétés d'arabe. Il y a l'arabe classique, que tout le monde est censé lire, mais que tout le monde ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire, si l'on voit un poème d'autrefois, on est censé le comprendre, parce que tous les mots sont des mots de la langue arabe. Mais si on est honnête avec soi-même, on reconnaît généralement que dans chaque vers, il y a deux ou trois ou quatre mots qu'on ne connaît pas, sauf les gens vraiment très versés dans la littérature et dans la langue. Il y a l'arabe qu'on appelle l'arabe des journaux, qui est un arabe écrit, classique, basé sur la langue classique et qui est relativement facile à lire. Et on comprend pratiquement tous les mots. Il y a les arabes parlés qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Et il y a une complication nouvelle, c'est que certains arabes parlés sont aujourd'hui écrits. Moi, j'ai grandi avec plusieurs arabes différents. La famille de ma mère était installée en Égypte. Elle parlait un arabe très particulier. La famille de mon père était au Liban. Et puis, il y a Donc, le dialecte égyptien, le dialecte libanais, la langue des journaux et l'arabe classique que j'étudiais à l'école. Donc, il y avait 4 arabes différents au moins. Ça rend l'apprentissage de l'arabe beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les familles d'origine russe parviennent facilement à transmettre leur langue aux enfants. Les familles d'origine italienne, sans aucun problème, qu'elles soient en France ou aux États-Unis ou au Brésil. L'arabe se perd malheureusement très vite parce que les familles ne parviennent pas à le transmettre quand elles sont en dehors des pays où on parle la langue.
Parlons de toi. Tu maîtrises donc ces deux alphabets, tu maîtrises ces deux langues. Tu les utilises encore quotidiennement, toutes les deux ?
Au Liban, tout le monde grandit avec 3 langues, qui sont l'arabe, qui est la langue maternelle, le français et l'anglais. J'ai lu récemment que le nombre de personnes scolarisées en anglais, aujourd'hui d'élèves scolarisés, vient de dépasser ceux qui sont scolarisés en français, ce qui ne me fait pas plaisir comme tu l'imagines, mais c'est une réalité de la vie. Dans mon enfance, on étudiait les 3 langues, et moi, dans ma famille paternelle était plutôt anglophone, ma famille maternelle plutôt francophone. J'ai grandi avec les 3 langues. J'utilise, dans mes recherches, j'utilise beaucoup la langue anglaise. Pour dire les choses honnêtement, parce que ce n'est pas uniquement dans les disciplines scientifiques que l'anglais est très présent, c'est également vrai dans d'autres disciplines, si on veut des livres d'histoire pointus sur une période donnée, 2 sur 3 sont en anglais, c'est une réalité. Et pour moi, la priorité, c'est d'avoir le savoir, d'avoir l'information. Et donc, je la lis dans la langue, alors, elle est disponible.
Soyons un peu dans la caricature. Est-ce que tu dirais que l'anglais, c'est le domaine du rationnel, de ce qu'il faut transmettre avec efficacité? L'arabe, c'est plus le cœur. Et le français, ça serait quoi?
Non, je n'essaierai pas de qualifier de cette manière. Disons, pour moi, l'arabe, c'est une langue... avec laquelle j'ai grandi, c'est la langue de mes ancêtres. Et c'est aussi une langue dans laquelle il y a eu une grande civilisation qui s'est exprimée. Aujourd'hui, ce qui se produit dans cette langue n'est pas à la hauteur de cette civilisation. Je pense qu'il faut maintenir le savoir de cette langue. En même temps, il est extrêmement difficile de s'en contenter. Le français est la langue que j'ai choisie pour écrire.
Ah, tous tes livres ont été écrits en français ?
Tous mes livres ont été écrits en français, depuis le premier. Mais il est vrai que quand je fais mes recherches, j'utilise beaucoup l'anglais. Je m'exprime peu en anglais. Il m'arrive de faire quelques conférences en anglais. Il m'arrive d'avoir des discussions, des entretiens. Il m'est arrivé une fois d'écrire un texte littéraire en anglais. J'ai écrit un genre de livret d'opéra en anglais. J'ai bien aimé l'expérience, mais je suis beaucoup plus à l'aise pour écrire et pour m'exprimer en français.
Il y a une question que je pose à tous mes interviewés. Ils sont souvent surpris. Quelle est la musique que tu recommanderais pour illustrer ce qu'on vient de raconter ? Cette multitude des langues, ce mélange.
J'ai écrit un petit texte qui a accompagné une pièce de Rimsky-Korsakov. Cette pièce de Rimsky-Korsakov était basée sur une vieille légende arabe. Ça s'appelle Antar. J'ai réécouté récemment cette musique qui se jouait au théâtre des Champs-Élysées et je l'ai beaucoup aimé, presque autant, peut-être même plus que lorsque j'avais écrit ce texte qui l'accompagnait. J'aimerais la faire découvrir. C'est une pièce peu connue, contrairement à Scheherazade, mais c'est dans le même esprit. Je dirais que Rimsky-Korsakov préparait dans son esprit Scheherazade en faisant cette pièce. On a des relents qui rappellent Scheherazade, mais il y a une subtilité, une tendresse dans cette pièce que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est cela la musique que je recommanderais.
Eh bien, je la trouverai, je l'insérerai dans notre conversation. Merci beaucoup, Amine.
Merci, Étienne.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.